L'Hebdo Région. 7 jours dans les pays de la Loire.
Damien Le Boulanger.
Bonjour, l'actualité des Pays de la Loire résumée en 25 minutes, c'est tout de suite dans l'Hebdo Région, une émission concoctée par les rédactions d'Angers, Nantes, Laval, Le Mans et La Roche-sur-Yon. Et pour bien commencer l'année, je vous propose de jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur de 2011, après la période janvier-juin la semaine dernière. Faisons un focus aujourd'hui sur ce qui a marqué les Pays de la Loire durant la deuxième moitié de l'année désormais achevée. Élections sénatoriales, manifestations dans l'éducation, l'automne fut mouvementé. À cela s'est ajoutée dans le Maine-et-Loire la problématique de trop grande affluence des demandeurs d'asile, nous dira Marie Agoyer. 2011, année aussi de précarité, toujours grandissante. Les associations d'entraide ont d'ailleurs tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme, entre autres à Nantes. Le point dans un instant avec Anthony Torzek. En Mayenne, l'agriculture reste bien plus présente que dans le reste de la région, même si le nombre d'exploitants est en chute libre depuis plusieurs années. C'est l'un des enseignements du premier recensement agricole publié cet automne, résultats sur lesquels reviendra Véronique Lara de Fidélité Mayenne. 2011 a aussi été synonyme d'anniversaire pour RCF Le Mans. Adrien Blanc nous fera revivre ce temps fort de la radio chrétienne sartoise. Nous terminerons enfin cette rétrospective en Vendée où Fanny Brevet nous parlera de sport et du passage du Tour de France dans le département en juillet dernier.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Et pour commencer, nous restons en Maine-et-Loire où nous retrouvons Marie Agoyer de RCF Anjou. Bonjour Marie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Alors cette deuxième moitié d'année 2011 a été avant tout marquée, je le disais en titre, par une rentrée mouvementée, en premier dans l'éducation avec la grande grève publique-privée.
Plus de 160 000 partout en France et près de 3 000 à Angers, c'est le nombre de manifestants qui ont défilé ce 27 septembre après-midi dans les rues contre les suppressions de postes dans l'éducation. Fait rare, l'appel commun des syndicats du public et du privé a donc porté ses fruits, faisant de cette journée l'une des mobilisations d'enseignants les plus importantes de ces dernières années à Angers. Il faut dire qu'à cette rentrée 2011, le Maine-et-Loire a été l'un des départements les plus touchés par les suppressions concernant l'enseignement catholique. Ce mouvement de masse n'a pas freiné le gouvernement. Dès le mois de décembre, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé 14 000 nouveaux emplois en moins en 2012, toujours sur le principe d'un poste sur deux non remplacé.
Et septembre a aussi été marqué, Marie, politiquement par des élections, les sénatoriales, avec un grand changement.
Et oui, pour la première fois de son histoire, le Sénat bascule à gauche. L'opposition réussit à décrocher les 23 sièges qui lui manquaient pour obtenir la majorité absolue au Palais du Luxembourg. Un succès auquel a participé la gauche angevine en remportant largement l'élection à l'échelle départementale. 701 voix contre 561 pour la liste UMP. L'écologiste Corinne Bouchoux, deuxième sur la liste du socialiste Daniel Raoul, décroche donc le quatrième siège du Maine-et-Loire, nouvellement créé par la réforme des collectivités. À droite, la sénatrice Catherine Desroches est réélue et le président du Conseil général Christophe Béchu réussit son pari d'entrer au Luxembourg. La déception sera surtout vécue du côté des centristes angevins. Parti divisé, ils n'ont désormais plus de représentants dans l'hémicycle sénatorial.
La question de l'affluence des demandeurs d'asile sur Angers a aussi été au cœur des préoccupations cet automne.
À un point tel que plusieurs élus de gauche et de droite ont demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, pour trouver une solution. Rencontre dont les élus sont sortis satisfaits mais prudents. Depuis 2 ans, ils sont près de 900 à frapper chaque année aux portes de la ville. Seule ville avec Nantes à posséder une borne d'inscription Eurodac. Un phénomène qui crée de la saturation et des tensions, mais aussi de nombreux problèmes d'hébergement par manque de place. Actuellement, le Maine-et-Loire accueille 45% des demandeurs d'asile pour la région des Pays de la Loire. Les élus demandaient un effort de l'État pour une meilleure répartition et le ministre s'est engagé à tout faire pour mieux réguler les demandes sur l'ensemble de la région. Les associations, elles, restent toutefois méfiantes car une première sonnette d'alarme avait été tirée il y a 2 ans et rien n'en était finalement sorti. Prudence que nous expliquait à l'époque Damien Rouillet, membre du Secours catholique et porte-parole du collectif d'associations angevines.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est un peu mon impression. Les élus sont ressortis visiblement de la réunion rassurés, avec une proposition d'une meilleure répartition régionale du devoir d'accueil des demandeurs d'asile. On ne peut que s'en réjouir. Ceci dit, comment cela va s'opérer, aucune proposition n'a été avancée. Et pour nous, au niveau de la coordination migrants, notre point de vue, c'est il faut peut-être rajouter une borne Eurodac au Mans, parce que la Sarthe a des capacités d'accueil qui sont sous-employées, en tout, largement pas au niveau de celle du Maine-et-Loire. C'est en fléchant un peu le flux d'arrivée qu'on va pouvoir permettre de mieux de répartir. Je veux pas être pessimiste, il y a des bonnes volontés, il y a un engagement politique fort, donc on peut souhaiter et penser que ça va s'améliorer, mais on reste assez sceptique que nous, au niveau de la coordination, tant qu'on touche pas structurellement, tant qu'on décortique pas cette régionalisation qui a été mise en œuvre en 2009 et qui a provoqué la concentration, pas seulement sur Angers, à Rennes on est dans une situation bien pire que sur Angers, à Nantes c'est aussi bien pire qu'à Angers, même si c'est moins médiatisé. C'est le résultat, si vous voulez, d'un mode structurel de gestion de la demande d'asile. Il faut revenir dessus pour nous.
Une nouvelle réunion a été fixée début janvier autour du ministre pour faire le point sur l'efficacité de la régionalisation.
Côté sport, la fin d'année et début de saison s'est corsé pour Cholet Basket.
Après leur titre de vice-champion de France, les basketteurs choletais ont perdu cet été leurs deux joueurs piliers. Dès lors, l'équipe doit retrouver un équilibre dans son jeu, ce qu'ils n'arriveront pas à faire à l'occasion de l'Eurocoupe. Ils sont éliminés dès les qualifications. Reste désormais le championnat de Pro A, où les défaites s'accumulent aussi de façon discontinue mais répétée. Aujourd'hui, les joueurs d'Herman Kunter se placent 10e en milieu de tableau et gardent l'espoir de remonter sur le podium d'ici la fin de saison. Et puis pour rester dans le sport, à noter une inscription qui fait la fierté des Saumurois, celle en décembre de l'équitation à la française sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, un art pour lequel le célèbre cadre noir de Saumur reste la référence. C'est d'ailleurs lui qui a porté le dossier depuis le début.
Merci Marie pour cette rétrospective en Maine-et-Loire.
L'Hebdo-Région, au cœur des Pays de la Loire.
Et du Maine-et-Loire, nous passons en un saut en Loire-Atlantique et plus précisément à Nantes. Anthony Torzeg, bonjour.
Bonjour Damien et bonjour à toutes et à tous.
Alors 2011 est aussi une année de précarité toujours grandissante, je le disais en introduction. D'ailleurs, les associations d'entraide ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme, entre autres à Nantes.
Oui, avec un chiffre, on va commencer avec ce chiffre, c'est le nombre de demandeurs d'emploi qui aura augmenté de 3,6% en 2011 sur les Pays de la Loire. Malgré tout, c'est moins qu'au plan national, car c'est un constat de l'INSEE, il y a moins de pauvres et d'inégalités sociales en Pays de la Loire que dans le reste de la France. Et c'est ce qui ressort en fait d'une étude qui a été publiée en fin d'année dernière. On y apprend que 11,2% des ménages de la région vivent sous le seuil de pauvreté, contre 13,5% au plan national. Les 5 départements des Pays de la Loire font partie du premier quart des départements français où la pauvreté des ménages est la plus faible. De même, les Pays de la Loire et la Bretagne sont les régions les moins inégalitaires en termes de niveau de vie. Bref, la différence est moins grande entre les plus riches et les plus pauvres. Malgré tout, des disparités existent. Par exemple, en Loire-Atlantique, on trouve plus de précarité à Nantes, Saint-Nazaire et dans le pays de Châteaubriant. Alors pourquoi la région semble être moins touchée par la précarité? La réponse de Sébastien Seguin de l'INSEE des Pays de la Loire.
La pauvreté est donc moins dans la région, compte tenu notamment de la vitalité économique de la région. On est la région où on a la plus forte participation donc de la population d'âge de travailler au marché du travail, que ce soit les femmes, puisqu'on a le plus fort taux d'emploi des femmes des régions françaises, les jeunes. On a également sans doute moins de populations très, très pauvres. On attire moins ces populations-là que dans de très grandes agglomérations, donc la région parisienne ou sur le littoral méditerranéen. Ou le Nord-Pas-de-Calais, on a des situations beaucoup plus intenses de précarité.
Si on fait un éclairage particulier sur la Loire-Atlantique, qu'est-ce que l'on peut dire sur la précarité et la pauvreté dans le département?
Le nombre de ménages précaires est plus élevé dans l'agglomération nantaise, compte tenu évidemment de la taille de l'agglomération nantaise. Et on retrouve cela à Saint-Nazaire. Donc dans ces deux agglomérations, donc on a une pauvreté qui est relativement importante. Ensuite, dans d'autres territoires plus excentrés, donc pour la Loire-Atlantique, au nord de la Loire-Atlantique, autour de Redon, et puis dans la région de Châteaubriant.
Voilà, Sébastien Seguin, statisticien de l'INSEE. Alors pour aider ces plus pauvres, il y a les pouvoirs publics, bien sûr, mais il y a aussi, et surtout j'allais dire, les associations. Et vous l'avez dit Damien, face aux restrictions budgétaires de l'État et des collectivités locales, ces associations constatent une baisse des financements. De plus, elles ne seraient pas considérées à leur juste valeur. Pourtant, sur les Pays de la Loire, le secteur associatif représente 11% des emplois et des milliers de personnes aidées. Imaginez un jour la disparition de ce secteur associatif. C'est ce que nous dit Jean-Marie Morel, le représentant des associations au Conseil économique et social des Pays de la Loire.
Imaginez si nous cessons tous nos activités. Plus de clubs sportifs, plus d'accueil périscolaire, plus d'animation jeunesse, plus, quasiment plus de maisons de retraite, puisque portées majoritairement par l'associatif. Les établissements médico-sociaux, on les ferme. Donc vous imaginez un petit peu la situation. Je pense que la grève des transports à côté, ce serait une rigolade. Il faut prendre en compte le fait que nous ne tiendrons plus la place que nous occupons aujourd'hui, et en particulier sur l'accompagnement des familles fragilisées, des salariés en difficulté. Donc lorsqu'on est en situation de crise, sans doute que l'effort doit être porté sur l'aide apportée, sur la protection que l'État doit apporter aux plus faibles. Et ce matin, dans la rencontre avec monsieur le préfet, puisqu'il nous a reçus à 7h du matin, donc il a insisté sur ce qu'il souhaitait, à savoir des contacts quasi permanents avec nous, parce que sa mission à lui, au titre de l'État, c'était la protection. Et donc je crois qu'effectivement, si nous lançons l'alerte aujourd'hui, c'est pour dire à l'ensemble des décideurs, ne touchez pas au secteur associatif, parce que la situation de grave crise sociale aujourd'hui risquerait d'empirer.
Et cette sonnette d'alarme était tirée début décembre par Jean-Marie Morel, le représentant des associations au Conseil économique et social des Pays de la Loire. Il faut s'en rappeler, 2011 était l'année européenne du bénévolat. Alors est-ce que ça va donner une impulsion pour 2012? On verra cela dans les mois à venir, Damien.
Et merci beaucoup Anthony pour ce coup de projecteur sur la question de la précarité et du monde associatif. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous. Merci. Et toute l'équipe de Fidélité Nantes.
À la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, au cœur des Pays de la Loire.
Troisième étape de cette rétrospective 2011 dans l'Hebdo-Région, direction la Mayenne, où nous retrouvons Véronique Lara de Fidélité Mayenne. Bonjour Véronique.
Bonjour Damien. Pour l'actualité de la Mayenne de ce deuxième semestre 2011, je retiendrai quelques événements de la vie économique et politique du département. Tout d'abord, au début du mois d'octobre, la publication des chiffres du recensement agricole a confirmé ce que l'on constatait depuis un moment, une nette baisse du nombre d'agriculteurs, moins 30% en 10 ans. L'agriculture occupe encore 11% de la population active ici en Mayenne, c'est deux fois plus que sur l'ensemble des pays de la Loire. Quelles sont les grandes tendances générales de ce recensement? Eh bien, c'est la question que nous avions posée à Patricia Bossard. Elle est responsable du service statistique de la Chambre régionale de l'agriculture.
C'est une agriculture encore plutôt assez familiale, petites exploitations par rapport à ce qui est observé en région. On a également un fort maintien des grandes exploitations, donc en termes de dimension économique. Les agriculteurs mayennais sont également mieux formés en 2000. On voit que à peu près trois quarts des exploitants ont au moins un niveau baccalauréat, voire supérieur. On a également un autre fait marquant qui est toujours la forte présence de la production laitière, puisque c'est cette production qui recense le plus grand nombre d'exploitations. On peut également mettre l'accent sur les circuits courts qui se développent et également aussi les signes de qualité. À peu près un tiers des exploitations mayennaises produisent sous signe de qualité. Alors on a une baisse des actifs en Mayenne, effectivement, on dénombre à peu près 14 250 actifs permanents en 2010. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que ces actifs sont maintenant aux trois quarts constitués de chefs d'exploitation et de co-exploitants, ce qui signifie également que ces personnes qui sont actives permanentes dans l'agriculture ont des statuts plus consolidés, puisque les femmes ou les conjointes, par exemple, qui n'étaient pas co-exploitantes, le sont maintenant davantage. Donc la part des personnes actives permanentes qui ont un statut reconnu sur l'exploitation augmente en 10 ans.
C'était Patricia Brossard, responsable du service statistique de la Chambre régionale de l'agriculture. Damien, j'ai noté aussi un événement économique. Dans deux ans, l'usine lavalloise du groupe Thales, spécialisée dans la fabrication du matériel de communication pour la défense et premier exportateur de notre département, abritera son pôle recherche qui sera transféré de Colombes en région parisienne. À la clé, non pas le nombre d'emplois, une vingtaine seulement, mais des emplois hautement qualifiés, des chercheurs et des ingénieurs, et il y en a besoin ici. Et puis aussi 10 millions d'euros tout de même injectés dans la vie locale.
Alors, côté politique, quels sont les événements qui ont marqué le département ?
Eh bien, le président de la République était à Laval le 19 octobre dernier pour parler d'environnement et d'écologie. Dans le cadre du 4e anniversaire du Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy avait longuement parlé, notamment de la question du nucléaire en France. Autre événement politique, les sénatoriales qui ont eu lieu en septembre, pas de grande surprise en Mayenne. Les deux sénateurs sortants centristes Jean Arthuis et Françoise Auquetto ont été réélus, mais pour la première fois tout de même avec un ballottage au premier tour, ce qui n'était jamais arrivé pour l'ancien ministre du Budget, président du Conseil général de la Mayenne depuis plus de 20 ans.
Enfin, l'événement de l'année, Véronique, ce sont vos 20 ans.
Oui, Damien, et c'est le cas aussi d'un certain nombre de radios chrétiennes ici en Pays de la Loire. Fidélité Mayenne a fêté ce 20e anniversaire au cours de 4 grandes soirées culturelles et spirituelles organisées tout au long de ce dernier trimestre. Au total, ce sont plus de 2000 personnes qui y ont participé. Nous entamons donc cette 21e année dans la joie et la bonne humeur. J'espère qu'il en est de même pour vous. À la semaine prochaine, Damien, et bonne année. Et
merci, Véronique. Effectivement, je vous dis à la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Et nous retrouvons maintenant dans cette Hebdo Région rétrospective 2011, Adrien Blanc de RCF Le Mans. Bonjour Adrien.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et pour vous Adrien, l'actualité forte de cette fin d'année 2011 est une actualité subjective mais néanmoins très importante. C'est comme la Mayenne, le 20e anniversaire de votre radio RCF Le Mans qui a été fêté en septembre.
Oui, RCF Le Mans a émis pour la première fois le 1er septembre 1991. Et d'ailleurs je vous invite à écouter Monseigneur Gilson, évêque du diocèse du Mans qui a parlé à cette époque.
Eh bien, j'ai beaucoup de joie à déclarer la route ouverte, l'ouverture de notre radio diocésaine, Radio Parabole. C'est une belle aventure et d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'appréhension à le faire parce que lorsque j'étais plus jeune, j'ai passé quelques fois à Radio Luxembourg, à Europe 1 ou dans d'autres radios nationales. Là, on ne savait pas à qui parler. Là, je sais à qui je parle. C'est ce peuple sartois dont je suis maintenant depuis 10 ans et avec beaucoup de joie, je le dis, la radio est ouverte.
Comme vous l'avez entendu, dans ses tout débuts, RCF Le Mans s'appelait Radio Parabole. En 20 ans, les auditeurs ont changé, leurs préoccupations sont différentes et RCF Le Mans s'est adapté avec de nouveaux moyens audiovisuels. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes passés à l'ère du numérique. Cela n'enlève rien à sa mission qui est toujours la même et c'est ce qu'explique Emmanuel Jousse, directeur général de RCF.
On a une mission en tant que média très public et au cœur des cités d'ouverture et de dialogue avec la société et porteur de réflexion, porteur d'espérance, porteur de paix, porteur de joie, porter et annoncer cette bonne nouvelle qui nous fait vivre, nous les chrétiens, et puis porter ce regard qui donne du sens dans un monde qui parfois a perdu des repères et quand on perd les repères, on perd vite l'espérance. Or, nous chrétiens, nous nous efforçons de porter l'espérance. Une radio RCF, c'est un lieu de parole. Et ça, ça nous semble très important. Alors il y a bien sûr la parole des responsables d'église, il y a bien évidemment aussi la parole de tous les acteurs de la société. Et puis une parole qu'il ne faut pas oublier, c'est la parole de ceux qu'on n'entend jamais. Alors je pense à tous les sans-voix, les malades, les handicapés, les détenus, il y a cette émission du téléphone du dimanche, et puis bien sûr parole avec un grand P, annoncer la parole. Le dernier point, c'est une radio qui est un lieu pour les chrétiens précisément, un lieu de formation, un lieu de communion dans la prière, et en particulier localement pour un diocèse, un lieu où la vie diocésaine peut s'exprimer, et plus largement c'est la dimension œcuménique, un lieu où nous donnons des nouvelles de la vie des chrétiens au sens large du terme, de toutes les communautés, et où nous essayons de témoigner ensemble de ce qui nous fait vivre.
C'était Emmanuel Jousse, directeur général de RCF. Il intervenait dans le cadre d'une table ronde sur l'avenir des médias chrétiens. Une table ronde organisée lors de notre 20e anniversaire à RCF Le Mans. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais signaler la soirée festive qui a eu lieu fin septembre. C'était un concert avec la participation de 300 choristes de 5 chorales dans un répertoire allant du grégorien au gospel.
20 ans, un bel âge pour un anniversaire. Toujours dans la rétrospective de l'année 2011, vous revenez Adrien sur le recensement agricole.
En Sarthe, on note une baisse de 20% du nombre d'exploitations en 10 ans, un chiffre un peu moins élevé qu'au plan national puisque celui-ci est de 25%. Ce sont donc 5300 exploitations réparties sur notre territoire, dont 3600 de taille moyenne et de grande taille. Et concernant le nombre d'agriculteurs, leur chiffre a chuté également. Nous avons perdu un tiers d'entre eux. Pour le type d'agriculture dans notre département, c'est l'élevage qui se maintient, avec toutefois une augmentation pour les porcs et les poulets.
Une autre enquête, celle concernant maintenant les conditions de vie des étudiants à l'Université du Maine.
Il faut savoir qu'il y a 10 000 étudiants à l'Université du Maine, 30% d'entre eux sont boursiers. Servette Ertul, professeur de sociologie, a mis en place il y a une quinzaine d'années l'Observatoire de la vie étudiante. Son rôle est d'étudier les conditions de vie des étudiants, comme dans la santé, les transports ou le logement. Et concernant les résultats de la dernière enquête, 35 à 40% des étudiants sont intégrés dans le tissu local. Au plan régional, 50 à 55% d'entre eux restent dans leur région des Pays de la Loire. Quant aux loyers, ils sont moins chers au Mans par rapport à d'autres villes universitaires et les moyens de transport se sont améliorés avec notamment l'arrivée du tramway. Globalement, nous pouvons dire qu'il fait bon vivre en Sarthe quand on est étudiant. D'ailleurs, il qualifie ce bien-être en lui donnant une note, la note de 7 sur 10.
Et on termine, Adrien, cette rétrospective en Sarthe avec un mot de sport et plus particulièrement d'arts martiaux.
Oui, il s'agit du full contact, un sport qui se pratique avec les poings et les pieds et dont le but est de vaincre son adversaire par points ou par KO. À 31 ans, Aurore Boulet a fini deuxième de la Coupe de France de kickboxing et la veille de Noël, elle s'entraînait encore. Elle était en stage dans les Yvelines avec Karim Gaji, champion de France de full contact. En mars prochain, la Sartoise devrait elle-même disputer le très convoité championnat de France.
Merci Adrien, bonne fin de semaine à vous et à la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Dernier arrêt sur cette rétrospective 2011, deuxième partie entre juillet et décembre. On le fait en Vendée avec Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et la fin de l'année 2011 est marquée pour vous par plusieurs annonces importantes pour le département de la Vendée.
Prison en Vendée, Michel Mercier fait machine arrière. Le ministre de la Justice et des Libertés a annoncé fin novembre aux sénateurs vendéens Bruno Retailleau et Jean-Claude Merceron le maintien des maisons d'arrêt de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Les deux établissements pénitentiaires seront rénovés afin de respecter les exigences posées par la loi pénitentiaire. Michel Mercier a également annoncé la création d'un nouvel établissement pour purger les courtes peines. Celui-ci sera implanté à Fontenay-le-Comte et devrait accueillir entre 150 et 190 personnes. Ouverture prévue en 2015.
Et politique toujours, dans un courrier adressé à Bruno Retailleau le 24 novembre, le Premier ministre a donné son feu vert au projet d'autoroute A831.
Cette autoroute qui doit relier Fontenay-le-Comte à Rochefort. Pour ce projet, déclaré d'utilité publique en 2005, François Fillon confirme que l'État prendra en charge la moitié du montant initialement prévu, ainsi que le tiers du surcoût de 125 millions d'euros de ce projet imputable aux exigences environnementales liées au passage dans le Marais Poitevin. Le reste est à la charge des collectivités locales. Et dans ce courrier, le Premier ministre indique également qu'il va demander à la ministre de l'Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, que la procédure de mise en concession puisse être lancée dans les meilleurs délais dès que l'accord des collectivités sur ce schéma de financement aura été reçu. C'est une immense victoire pour la Vendée, s'est félicité Bruno Retailleau, car il s'agissait, je cite, de désenclaver le sud du département et Fontenay-le-Comte qui ont particulièrement souffert de la crise.
Une autre victoire pour le monde viticole, une reconnaissance pour les fiefs vendéens.
Et oui, les vignobles des fiefs vendéens ont reçu officiellement le lundi 12 septembre par décret l'appellation d'origine contrôlée. Le résultat de 20 ans d'efforts de tous les acteurs de la filière viticole au service de la qualité et de la renommée des vins de la Vendée et de son terroir.
Et Fanny, on continue cette rétrospective avec un chiffre, 240 000 habitants supplémentaires en Vendée à l'horizon 2040.
Soit 7 000 à 8 000 personnes supplémentaires chaque année. C'est le résultat d'une projection réalisée par l'INSEE des Pays de la Loire. Une étude commandée par Vendée Expansion, l'agence de développement économique du département. Une croissance de 1% annuel supérieure à celle estimée sur l'ensemble de la région. La population sur la même période en Pays de la Loire n'augmentera en effet que de 0,7%. Cette croissance placera ainsi la Vendée au deuxième rang des départements à la plus forte progression démographique. Dans cette simulation, la forte progression de la population vendéenne serait la conséquence quasi exclusive des migrations résidentielles.
Mais le sujet qui vous a marqué dans votre département, Fanny, c'est le Tour de France, la Vendée qui a vécu au rythme de ce grand rendez-vous du cyclisme pendant 3 jours cet été.
Oui, en effet, le départ de la Grande Boucle était donné du passage du Gouas, une étape en ligne qui a amené les 198 coureurs au Mont des Alouettes le 2 juillet. Le lendemain, les 22 équipes engagées se sont retrouvées pour un contre-la-montre autour des Essarts. Et puis pour le troisième et dernier jour en Vendée, le peloton s'était lancé d'Olonne-sur-Mer. Ce départ en Vendée revêtait une importance particulière pour les cyclistes de l'équipe Europcar, basée en Vendée. Parmi eux, Christophe Kern, qui une semaine avant le départ du Tour est devenu champion de France du contre-la-montre. Alors justement, n'était-il pas en forme trop tôt ? C'est la question que nous lui avons posée avant le départ du Tour.
La question qui revient très très fréquemment en ce moment, vous êtes très en forme, vous avez votre pic de forme, est-ce que ça va tenir, est-ce que c'est pas trop tôt? Moi je vois pas ça comme ça, parce que déjà ça faisait 7 ans que j'attendais de regagner, de lever les bras, c'est arrivé au Dauphiné, je pense que ça a fait un bon déclic. Ce qui est pris est pris, c'est sûr que c'est très dur à gérer, ça prend du temps à arriver à une telle condition, et après... Tenir un tel pic de forme, c'est très compliqué sur le long terme. Donc l'avantage d'avoir été en forme si tôt, c'est que et d'avoir surtout pu concrétiser cette forme, c'est que j'ai beaucoup moins de pression. Moi, j'ai arrivé au départ du tour très relâché et puis j'ai tout à gagner. Donc je me pose pas la question si ça va tenir ou pas. J'espère que ça va tenir. Et, bon, je suis quand même assez confiant.
Et Christophe Karn a finalement abandonné lors de la 5e étape du Tour. Mais deux coureurs d'Europe Car s'y sont particulièrement illustrés. Thomas Voeckler, le leader de l'équipe, a porté 10 jours le maillot jaune et terminé 4e de l'épreuve. Et Pierre Roland, 10e au général et meilleur jeune.
Merci Fanny pour cette rétrospective 2011 dans le département de la Vendée. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine pour l'actualité vendéenne de l'Hebdo Région. À la semaine prochaine. C'est la fin de cette Hebdo Région spéciale rétrospective 2011 réalisée par les journalistes et techniciens de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à vous pour votre fidélité et à la semaine prochaine à vous aussi pour un nouveau Hebdo Région spéciale 2012.